Radio Capi.
Oh, Capi.
Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Ebola, espoir d'un traitement et d'un vaccin, mais la riposte reste confrontée à des obstacles en Ituri. C'est à ce titre que la première ministre a séjourné en Ituri pour rassurer les équipes de santé qui ont évoqué plusieurs défis, entre autres le retard dans le paiement des primes. Médecins sans frontières avertis, la RDC reste confrontée à une combinaison préoccupante de violences, d'urgences sanitaires et des contraintes financières. Face à cette situation, MSF appelle à une mobilisation plus forte et à une réponse mieux coordonnée. L'invité de ce journal, c'est Jika Mondonga, gestionnaire scolaire d'origine congolaise résidant au Canada. Dans un entretien à Radio Capi, il démontre à quel point ces deux ouvrages peuvent constituer une innovation dans le système éducatif congolais. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Lutte contre Ebola d'abord avec ses assurances de la première ministre. Les recherches se poursuivent afin de mettre au point un traitement spécifique et un vaccin dans les prochains mois. Propos de Judith Souminois lors de sa mission d'évaluation de la riposte en Ituri. Une visite destinée à rassurer les équipes de santé qui ont évoqué plusieurs défis, notamment le manque de matériel et d'équipement, l'absence des laboratoires mobiles dans certaines zones ainsi que le retard dans les paiements des primes. En tout cas, la première ministre confirme que le gouvernement congolais et ses partenaires intensifient les efforts pour éradiquer rapidement l'épidémie d'Ebola. Écoutons Judith Souminois Touluka au micro d'Isaac Remoyope.
Nous travaillons avec nos partenaires qui sont ici présents pour pouvoir éradiquer rapidement cette maladie. Nous regardons ça de très près. Nous avons, nous, en tant que gouvernement, débloqué les fonds pour pouvoir déjà démarrer les premières prises en charge. Les partenaires ont fait de même aussi. Et ce qui reste maintenant, c'est que de pouvoir concrétiser toutes les décisions qui ont été prises au niveau de Kinshasa sur le terrain. Il y a des laboratoires qui sont en train d'être mis en place. Il y a des équipements, des véhicules pour pouvoir aller chercher des malades d'ambulance, etc., qui sont en train d'être livrés petit à petit, mais on essaie de le faire le plus rapidement possible. Avec nos différents partenaires, nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait le maximum d'équipement pour cette prise en charge digne et sécurisée des enterrements. Nous sommes en train de regarder la situation du personnel soignant qui travaille dans la riposte et nous sommes aussi en train de regarder la question beaucoup plus large de tout le secteur de la santé. Au niveau de Kinshasa, à l'INRB, les spécialistes sont en train de travailler pour pouvoir trouver un traitement spécifique à la souche Bundi Bugyo. Et nous espérons que d'ici les prochains mois, on pourra enfin trouver un remède précis pour cette maladie ou aussi un vaccin, ce qui permettra vraiment de prémunir les communautés face à ce virus.
Nous vous informons que la première ministre est rentrée à Kinshasa hier vendredi soir. Cela après une visite des centres de traitement d'Ebola de Rwampara, Bunia et Mungwalu, trois des principaux épicentres de l'épidémie en RDC. Sachez aussi que la province du Kwilu compte désormais 80 nouveaux professionnels de santé communautaire. Ils ont été officiellement investis de leur mission hier vendredi après avoir prêté serment à Bandundouville. Plus encore, ils se sont engagés à respecter les principes d'éthique et de déontologie de leur profession afin de mieux servir les communautés. Cette cérémonie, il faut le dire, marque leur intégration officielle au sein du corps professionnel national de santé communautaire. Reportage de Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement, rendue par Nasia Tambo.
À travers cet engagement, ces professionnels veulent à tout prix œuvrer à la promotion de la santé communautaire au bénéfice de populations particulièrement dans la province de Kwilu. Pour ce faire, le président national du corps professionnel de santé communautaire, Willy Lukumu, est revenu sur le rôle et les responsabilités de cette organisation.
Les professionnels en santé communautaire jouent un rôle clé dans les systèmes de santé. C'est un maillot fort de la première ligne de toutes les interventions visant à améliorer la santé de la population. En particulier, dans la santé de la population de Kwilu, aux professionnels de la santé communautaire. Vous allez prêter serment, ce n'est pas une simple formalité, mais un éveil de conscience sur l'engagement ferme d'accepter de travailler dans les normes d'éthique et d'ontologie.
Clôturant la cérémonie, au nom du gouverneur de province, le ministre provincial des Transports, Bonaventure Kipalamoto, a pour sa part exhorté les nouveaux assermentés à exercer leur profession avec intégrité, discipline et professionnalisme dans le strict respect de règles d'éthique et de déontologie afin de contribuer efficacement à l'amélioration de santé des populations du Kwilu.
Nouvelle alerte de Médecins Sans Frontières. Dans son rapport annuel 2025, cette organisation dresse le portrait d'une RDC confrontée à une accumulation des crises sécuritaires, des urgences sanitaires, des financements en baisse. Dans l'est de la RD Congo, par exemple, les violences continuent de faire des victimes. Sur le front sanitaire, plusieurs épidémies persistent, dont Ebola qui poursuit sa progression. À cela s'ajoute une réduction inquiétante des financements humanitaires alors que les besoins ne cessent d'augmenter. Face à cette situation, MSF appelle à une mobilisation plus forte et à une réponse mieux coordonnée. Reportage de Sephora Mpakachipuna.
La RDC fait face à une superposition de crises qui fragilise davantage des millions de personnes. C'est l'un des principaux constats du rapport annuel de Médecins Sans Frontières. L'organisation humanitaire revient sur une année marquée par l'intensification des conflits armés.
Ce rapport met lumière à la convergence de plusieurs crises. Et c'est ça le grand problème ici. Dans l'Est du Congo. Il y a les conflits, il y a des épidémies. Il y a aussi un élément très important qui est la réduction des financements humanitaires.
L'organisation s'inquiète également de la pression croissante exercée sur le système de santé. Entre insécurité, les besoins médicaux grandissants et la baisse des ressources disponibles, les interventions deviennent de plus en plus complexes. Autre sujet de préoccupation, l'épidémie d'Ebola. Selon MSF, la maladie continue de progresser avec des milliers de cas recensés et un lourd bilan humain.
On est encore loin peut-être de contrôler l'épidémie, d'autant plus que parmi les défis, on ne sent pas jusque-là l'engagement communautaire, donc il y a beaucoup de résistance. On est encore en train de travailler là-dessus.
Face à l'ampleur de ces défis, Médecins Sans Frontières plaide pour une mobilisation accrue de tout le partenaire. L'organisation estime que seule une réponse coordonnée entre autorités, personnel de santé et communautés locales permettra de mieux protéger les populations affectées.
Une autre sonnette d'alarme est tirée cette fois par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Plus de 1200 cas de violations des droits de l'homme, dont 59 cas de violences sexuelles, comptabilisés au cours du mois de mai en République démocratique du Congo. Les BCNIDH soulignent que 80% de ces violations sont concentrées en Ituri et dans les deux Kivu. Dans son dernier rapport mensuel rendu public ce vendredi, ce bureau note une nette détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire sur les territoires nationaux au cours du mois de mai 2026. Les détails avec Ronéline Tibonera.
L'augmentation est brutale. Plus de 26% des violations et plus de 20% des victimes en un mois. En mai 2026, le BCNUDH a documenté au moins 881 violations de droits humains ayant touché près de 1200 personnes sur l'ensemble des territoires. Cette hausse s'explique principalement par l'intensification des violences dans l'est du pays. Le Province du Nord, du Sud Kivu et de l'Ituri concentre à elle seule plus de 80% des exactions sous les coups des attaques des ADF, du 123 ou encore de la LRA. Sur le plan des violences sexuelles liées au conflit, les rapports comptabilisent 59 victimes, majoritairement des femmes et de jeunes filles. Si les chiffres globaux baissent par rapport à avril, les acteurs étatiques, principalement des militaires FARDC, sont désignés comme premiers responsables de près de la moitié de ces exactions devant les groupes armés. Toutefois, le BCNIDH salue la progression de la justice. Tenez, au cours du mois, 66 poursuites judiciaires ont été engagées contre des militaires, des policiers et des civils, aboutissant à près de 50 condamnations pour violences graves.
Des centaines de cultivatrices de légumes en difficulté en cette saison sèche à Kananga. Le manque d'eau occasionné par l'absence des pluies ne permet pas en effet l'accroissement normal des légumes dans cette ville en particulier et dans toute la province du Kasaï central en général. Du coup, la plupart de ces agriculteurs s'adonnent à la culture maraîchère pour ne pas trop souffrir du manque d'eau et ainsi subvenir aux besoins de leur famille. Et qui dit marais voit les moustiques, les serpents. Le quotidien, le combat de ces cultivateurs, dans ce reportage signé André Katendenga Lamoulomé.
À Chilumba, dans la commune de Katoka, les marais sont en pleine activité. Pendant cette saison sèche, ils deviennent le principal espace de culture. Amarante, choux, tomates, patates douces ou encore arachides y sont cultivés. Monique Ngalola fait partie de ceux qui pratiquent la culture maraîchère.
Pendant la saison sèche, la terre est sèche et les cultures ne grandissent pas. Voilà pourquoi nous faisons la culture maraîchère pour subvenir à nos besoins.
Quelques mètres plus loin, Rose Mputu arrose ses cultures à l'aide d'une bassine, un travail pénible. Elle déplore le manque de moyens. Les semences sont rares, les outils sont insuffisants et la main-d'œuvre coûte cher.
Nous n'avons pas d'outils appropriés pour travailler dans le marais. Nous souffrons aussi pour trouver les semences.
À ces difficultés s'ajoutent les moustiques, les serpents et les longues heures passées sous un soleil accablant. Malgré tout, ces cultivateurs continuent de travailler. Ils lancent un appel au gouvernement congolais et à ses partenaires pour un appui en semences, en matériel et en encadrement afin d'améliorer leur production. Kananga, André Katendengalamoulmé, Radio Okapi.
De la culture maraîchère au manger, il n'y a qu'un pas ou presque pas. Les feuilles de manioc sont de plus en plus rares au marché de Mbujimayi, légumes pourtant très prisés par la population de cette ville du Kasaï oriental. À la base de cette situation, la saison sèche encore une fois, expliquent les experts. Conséquence, les prix grimpent et les familles nombreuses, grandes consommatrices de ces légumes, peinent à s'en procurer. D'autres légumes comme les amarantes et les choux de Chine apparaissent à des prix plus abordables. Mais certaines ménagères restent méfiantes et estiment que ces produits sont cultivés avec des engrais chimiques. Esther Darafina pour le reportage.
Au marché central, les feuilles de manioc habituellement vendues en abondance deviennent un produit rare pendant cette saison sèche. Une vendeuse affirme parcourir de longues distances pour s'approvisionner.
Ces jours-ci, c'est vraiment difficile. On marche beaucoup pour trouver les feuilles de manioc. Les propriétaires des champs ont aussi augmenté des prix.
Cette rareté entraîne une hausse de prix. Un botte de feuilles de manioc qui se vendait à 500 francs se négocie désormais à 1000, parfois 1500 francs congolais. Même les restaurants peinent à en servir en quantité, signe que l'accès à ces légumes est devenu un véritable défi. Confirmation d'Alphonsine Tanga, responsable du restaurant Maman Alpho.
Pour le moment, l'effet de manioc ne se fait pas avoir. Un louche, nous vendons maintenant à 1000 francs. Avant, on vendait à 500, beaucoup. Il n'y a que des choux et des amarantes.
Face à cette situation, certains consommateurs se tournent vers les amarantes et les choux de Chine de plus en plus visibles et aux prix accessibles. D'autres ménagers par contre, déplore le fait que ces légumes sont parfois cultivés avec des engrais chimiques qui les rend moins rassurants pour la consommation quotidienne. Malgré sa rareté, plusieurs ménagères affirment que la feuille de manioc reste au cœur des habitudes alimentaires. Elle se mange au foufou, au riz, à la banane et au manioc. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Manque d'électricité dans plusieurs quartiers de la ville de Kamituga, en province du Sud Kivu. Cela, à la suite d'une pluie diluvienne survenue jeudi soir dans cette partie du territoire de Mwenga. Le maire adjoint de cette zone, Faraja Yogolelo, qui lance un SOS, ajoute que ces intempéries ont également contribué à la destruction des toitures de plusieurs maisons ainsi que d'infrastructures locales, parmi lesquelles les écoles et les hôpitaux. L'autorité de la ville de Kamituga, Faraja Yogolelo, est joint par Ronéline Tibonera.
Elle a ravagé les toitures des 5 écoles secondaires de la place et 6 églises, quelques bureaux administratifs dont la DPMR, état-major de nos phares d'essai, l'inspectorat des poules primaires et secondaires, une chaîne de radio locale Canal Temef, et une trentaine de maisons d'habitation dans les différents quartiers de la ville. Comme si cela ne suffisait pas, les fils électriques du réseau de distribution du courant de la centrale ont été endommagés. Et pour le moment, la ville est plongée dans le noir. Face à ce dégât énorme, nous sollicitons aux autorités provinciales et nationales une aide humanitaire pour assister les sinistrés frappés par cette catastrophe et un appui financier pour la réhabilitation du bâtiment et des salles de l'hôpital général de référence de Kamituga, car cet hôpital n'a pour le moment aucun autre cadre approprié pour diriger les opérations d'accouchement, les lieux pour garder les accoucher et leur bébé et soigner les femmes enceintes.
Notons qu'une situation similaire a touché le groupement Kalongé dans les territoires de Calais et toujours au sud Kivu. Dans cette zone, des cultures ont été détruites par la grêle, aggravant une situation humanitaire déjà difficile. Bonne nouvelle à présent, c'est le grand marché de Kinshasa qui fait peau neuve. Pour preuve, toutes les avenues donnant accès à ce marché sont dégagées et bénéficient d'une véritable cure de propreté. Un reporter de Radio Kapi a effectué une ronde hier vendredi dans ces coins de la capitale pour s'en rendre compte. Les agents de l'hôtel de ville visibles sur place nettoient et réaménagent les abords immédiats du marché. C'est un reportage de Blaise Ndongala Mayanda.
Les alentours du marché central de Kinshasa ont changé de visage grâce au curage des caniveaux, au dégagement des collecteurs, à l'évacuation des déchets accumulés et à la réfection de la voirie sur plusieurs avenues stratégiques telles que Ex-Bokassa, Wakadingi, Dumarais, Dimarché, de l'école, Plateau, Kassavubu et Bolingo. En plus de ces grands nettoyages, des étals et marchés pirates qui obstruent les trottoirs et chaussées ont été démantelés. Rencontré sur place, un agent de la brigade des salubrités de l'hôtel de ville de Kinshasa a expliqué que cette politique zéro tolérance vise à rétablir l'ordre urbain et à garantir la fluidité de la circulation tout en préparant les conditions nécessaires à la réouverture officielle du marché central. Malgré les efforts récents de curage et de modernisation des voiries, les défis de la pérennisation de la propriété demeurent. Les autorités urbaines doivent encore relever la difficulté de modifier durablement les habitudes de gestion des déchets et d'empêcher la réapparition spontanée d'occupations informelles aux abords des pôles commerciaux névralgiques.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, Bahreïn, le Koweït et la Jordanie ont été à nouveau pris pour cible par l'Iran ce vendredi 24 juillet en représailles à de nouveaux bombardements des États-Unis dans la nuit. Téhéran appelle tous les civils à se tenir éloignés de tout site abritant des forces américaines au Moyen-Orient. Des explosions ont également eu lieu au Kurdistan irakien. L'escalade entre les États-Unis et l'Iran se poursuit. Pourtant, les deux pays n'ont pas fermé la porte à un processus diplomatique.
L'invité.
Jika Mondonga, gestionnaire scolaire d'origine congolaise résidant au Canada, parle de l'apport de ses deux livres sur la gestion et climat scolaire. Il a présenté le samedi 18 juillet 2026 à Kinshasa ses livres au cours d'une conférence qu'il a animée pour faire voir à quel point ces ouvrages peuvent constituer une innovation dans le système éducatif congolais. Il s'entretient avec Askin Zigbia Tayoro.
Bonjour Monsieur Jika Mondonga.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Vous avez écrit deux livres qui portent sur la gestion scolaire et le climat toxique affectant la santé et la carrière professionnelle des intervenants scolaires. Analysons d'abord le premier livre. Quelle innovation avez-vous bien voulu apporter dans la gestion scolaire?
Merci pour la question. L'innovation que j'ai voulu apporter dans ce livre sur la gestion scolaire, c'est notamment le fait d'apporter de la prévisibilité au travail, de donner une autonomie aux membres du personnel, parce que j'ai développé 71 enjeux que l'on rencontre régulièrement dans les écoles. C'est bien développé dans les livres. Même dans la deuxième partie du livre, j'ai donné l'exemple d'une planification annuelle, étant donné que l'année scolaire pour les administratifs commence au mois d'août et ça finit au mois de juillet. Donc, j'ai des transactions pendant tous les mois qu'on est à l'école et puis qui doit faire quoi. Donc, ça permet d'enlever le flou dans le travail des gens. Ça permet de donner cette autonomie aux gens parce que la direction d'école ne connaît pas tout. Donc, ça fait que les réponses sont déjà données dans les 71 enjeux travaillés dans ce livre. Donc, il y a plusieurs stratégies qui permettent effectivement de diminuer le stress dans le chef de membre du personnel.
Autre question, quelle démarcation établissez-vous entre la problématique de la gestion scolaire actuelle en RDC avec la gestion scolaire à laquelle vous faites allusion dans votre livre que vous avez présenté au public lors d'une conférence tenue ici à Kinshasa à CEPAS?
La démarcation que j'établis entre la problématique de la gestion scolaire actuelle en RDC avec la gestion scolaire développée dans mon livre, c'est que on voit plusieurs éléments non structurés dans notre contexte éducatif de la RDC par rapport à ce que je présente. Il y a notamment le faible financement structurel du secteur éducatif, il y a la formation déficitaire des enseignants et des directions d'école, le climat scolaire marqué souvent par le stress professionnel et social, par la violence de toutes sortes, par le déficit d'autorité, par le clientélisme, etc. Dans le livre, je m'appuie par exemple sur les 7 corrélats des écoles efficaces développées par Larry Lessott. Donc ça fait que ce sont des éléments que nous devons apprendre, que nous devons travailler dans notre système éducatif pour que la gestion scolaire soit plus efficace dans les écoles et pour amener la réussite des élèves.
Alors, quels sont les avantages que offre ce livre pour le système éducatif de la RDC?
Ce livre s'adresse aux directions d'école, aux enseignants, aux autres membres du personnel d'une école, aux parents d'élèves et à toute personne qui s'intéresse à la gestion scolaire. C'est un autre avantage. 71 enjeux sont développés là-dedans et ce sont des enjeux vraiment qui permettent à l'école d'évoluer. Donc, il y a plusieurs avantages à avoir ce livre. Et c'est un livre que je recommande vraiment à toutes les écoles de la République démocratique du Congo qui veulent avoir de la prévisibilité au travail, les écoles qui veulent enlever le flou. Donc le ministère a vraiment besoin de ces livres pour faire avancer le leadership pédagogique dans notre pays.
Monsieur Dika, prenons le deuxième livre. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en parlant d'un climat scolaire toxique affectant la santé et la carrière professionnelle des intervenants scolaires? On peut dire autrement des acteurs scolaires.
Ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est l'aspect de la violence à l'école qui n'est pas vraiment documenté selon l'auteur français Desbarbieu, alors que la violence est vraiment fréquente dans les écoles, que ce soit au Canada ou encore à l'international, comme nous l'a dit Bauman en 2018. Donc c'est vraiment cet élément-là que je voulais faire savoir, parce que les intervenants scolaires vivent de la violence de la part des élèves, de la part des parents, des fois aussi entre intervenants scolaires. Donc c'est vraiment cet aspect des choses que je voulais mettre en avant pour qu'on essaye de travailler là-dessus et de ramener les écoles selon les 7 corrélats des écoles efficaces, dont le point notamment là de la sécurité à l'école. L'école, que tout le monde se sente bien à l'école, que toutes les composantes de l'école travaillent ensemble en harmonie.
Pour en finir avec cet entretien, Monsieur Dika, comment comptez-vous rendre applicable le contenu de ces 2 livres dans le système éducatif congolais?
Personnellement, j'ai fait des demandes au niveau du ministère de l'Éducation, au ministère de la Justice. J'attends juste le suivi. Donc, un partenariat, ça serait quelque chose d'intéressant. Il faut amener la recherche dans les salles des classes. C'est ce que je propose dans mes livres. Il faut aussi songer vraiment à la formation des enseignants, à la formation des directions d'école. C'est quelque chose de crucial pour que nous ayons un système de qualité. Donc, pour le moment, je propose vraiment un partenariat. Je suis prêt à travailler avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Justice, la présidence de ce pays pour faire avancer les choses. Donc nous avons un système à réinventer. Moi, je suis prêt à travailler avec les institutions pour qu'on avance ensemble.
Dika Mondonga, je vous remercie.
Merci beaucoup.
C'était notre invité Dika Mondonga qui s'entretenait avec Askin Zigba Tayoro. Voilà qui met fin à ce premier journal Parler du matin, préparé pour vous par Lévin Mbouinga Vubu et mis en onde par Alain Goy. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.